Bonjour à tous, je suis Alexis, un des cofondateurs de Contournement. Bienvenue dans notre podcast dédié aux technologies no-code. Alors dans cet épisode, on va s'attaquer au sujet de l'automatisation. Et pour ça, on a invité un expert, Thomas Janot, le fondateur de l'agence Essentiel.io. Alors on va parler beaucoup de Zapier, évidemment, un des outils phares quand on parle d'automatisation. C'est un outil que Thomas maîtrise particulièrement puisque c'est un des deux seuls experts certifiés en France. Alors on va donc parler de ses activités, les services qu'il propose à ses clients, son utilisation de Zapier, évidemment, et puis des conseils pour bien débuter dans l'automatisation. N'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour trouver des liens vers du contenu qui pourra vous aider à bien comprendre aussi tout ce dont on va parler. Voilà, c'est un épisode assez long, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, c'est parti, j'envoie l'épisode. Salut Thomas.
Bonjour Alexis.
Merci de prendre le temps de répondre à nos questions pour ce podcast, pour
Avec plaisir.
Nouvel épisode qu'on va focaliser un petit peu sur l'automatisation. Puisque c'est une des choses que tu maîtrises bien, entre autres choses, dans ta palette de skills. Avant de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, que tu dises un petit peu aux auditeurs qui tu es, pourquoi tu es là.
Ok, très bien. Donc, moi, je m'appelle Thomas Janot. J'ai fondé une agence qui s'appelle Essentiel, où je vends de l'automatisation de process aux entreprises. Donc, j'aide les entreprises à automatiser leurs processus en interne, après avoir travaillé avec elles sur leurs problématiques et là où il y a de la valeur à apporter. Et parfois, je les forme aussi sur les nouveaux outils digitaux. Et en fait, une grande partie de ce que je fais, j'utilise des outils no-code, donc typiquement Zapier et Airtable. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est simplement de la configuration Airtable et de la configuration Zapier pour des entreprises. Et en fait, parfois, je fais du sur-mesure avec un petit peu de code pour répondre à des problématiques très, très spécifiques et très, très métiers, en fait, en fonction des boîtes. Voilà.
À la base, qu'est-ce que tu as fait un peu comme étude, juste ton parcours un peu pour savoir.
Mon parcours. Bon, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai arrêté les études en fait à 19 ans. J'ai fait un an de prépa pour une école d'ingé. Ça m'a pas plu. J'ai tenté la fac d'info. Ça m'a encore moins plu. J'y suis resté 3 mois et après je suis parti. Et en fait, j'ai appris à coder en ligne sur Open Classroom, donc en autodidacte complet. Donc j'ai de base plus une formation de développeur en fait et du coup jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours switché entre projets entrepreneuriaux où moi j'avais plus le profil tech et du développement web freelance en fait tout simplement pour gagner ma vie jusqu'à ce que je lance Essentiel où là j'ai pu trouver un créneau très intéressant sur lequel j'ai plutôt de bonnes compétences donc ça marche très bien mais du coup voilà donc avant j'avais dans différents autres projets entrepreneuriaux. J'ai tenté de monter 4 startups qui. Il y en a 2 qui existent toujours, il y en a 2 autres qui se sont arrêtés parce que ça n'a pas marché. Et voilà. Essentiel, c'est mon 5e projet, entrepreneuriat.
Ok, donc c'est celui dans lequel tu mets à profit un peu tous les skills que tu as appris là ces dernières années.
Complètement. En fait, les projets sur lesquels j'ai bossé, ils mixaient toujours 2 choses, à la fois la technologie et l'éducation. Et donc, en termes de noms qui existent encore aujourd'hui, il y a INI et Coding Days. Et c'est deux projets où à chaque fois on essayait soit de travailler sur la tech, d'enseigner la tech pour Coding Days en question, soit d'enseigner les langues sur INI mais avec une plateforme tech refaite et ainsi de suite. Et moi, c'est 2 domaines qui m'ont énormément intéressé, la technologie, l'automatisation qui est arrivée un petit peu après et l'éducation. Et en fait, là, je me rends compte que je me débrouille plutôt bien en technologie. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de monter en compétences, pas forcément sur du code, mais juste sur de la maîtrise d'outils, en fait. Et du coup, on est venu me chercher sur ces compétences-là et c'est ce qui, moi, m'a permis de commencer à lancer cette nouvelle agence.
Ok, super. Alors, si tu veux nous parler justement un petit peu de tes activités, et rentrer un petit peu plus dans le détail peut-être de l'automatisation, donner peut-être des exemples un petit peu de projets sur lesquels tu travailles.
Ouais, bien sûr. En gros, la plupart des clients que j'ai aujourd'hui ont plus des profils de start-up et il y en a qui veulent en fait, quand c'est une boîte de service, il n'y a pas de dimension tech, c'est-à-dire que pour elles, c'est pas forcément un enjeu d'avoir un CTO, d'avoir des devs qui vont travailler en interne. Du coup, elles essayent de tout faire à la main. Et donc pour ça, elles utilisent des outils actuels qui existent sur le marché. Et les boîtes avec qui je travaille ont découvert des outils comme Airtable pour gérer ta base de données de manière plus visuelle et plus agréable qu'un Excel. Et Zapier, qui permet d'automatiser du coup les processus. et les connexions entre les différents outils. Et en fait, elles sentent qu'il y a un grand potentiel, mais qu'elles sont assez vite limitées dans l'usage qu'elles peuvent en faire au quotidien. Et en fait, ce sont des boîtes qui n'ont pas, pas besoin forcément d'avoir un produit à vendre, mais elles font du service et elles ont besoin d'avoir des bons process en interne. Donc elles ont besoin de créer en fait leur propre produit interne, si tu veux, et donc d'automatiser leur propre process. Et c'est typiquement le type de profil avec lequel je travaille. Et donc là, la plupart des clients avec lesquels je bosse, ils utilisent en grande partie justement Airtable Zapier. Et c'est comment est-ce que tu vas construire un outil interne en fait qui répond aux besoins métiers de la boîte. Et donc c'est passionnant parce que c'est beaucoup de sur-mesure et de personnalisé, parce que chaque boîte a ses propres problématiques, qui est liée à sa culture, qui est liée à son business, qui est liée au type de personnes qui travaillent à l'intérieur. Et donc, tu as un travail de compréhension des problématiques, des enjeux, et après, tu dois être en capacité de toi de traduire ça par des solutions techniques, mais qui sont pas complexes, en fait, qui en général, que tes clients peuvent reprendre et peuvent faire évoluer. Et donc, c'est ce que je fais notamment avec Zapier et Airtable. Et quand, de temps en temps, j'arrive sur des projets où ils veulent quelque chose de très sur mesure, qui, par exemple, des automatisations qui peuvent faire des choses très spécifiques, je me souviens...
Un exemple.
Mon premier client, c'était une des missions, au final, qui était assez poussée avec le recul. C'était un site de e-commerce sur PrestaShop. Et donc, ils vendent... Ils vendent de la nourriture en ligne, et en gros, c'est du dropshipping assez classique. Et l'inconvénient en fait de PrestaShop, c'est que quand tu veux récupérer en fait l'ensemble des commandes qui ont été passées, tu les récupères sous un format particulier. Et eux, ce client-là, il travaille avec un prestataire qui lui est chargé en fait de livrer justement la nourriture en fonction des commandes, sauf que le prestataire il veut qu'on lui envoie les commandes sous un format particulier. Et donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il récupérait les commandes sur PrestaShop, il passait des heures par jour à retraduire les commandes PrestaShop
à la main.
À la main, au format du... Exactement, voilà, au format du prestataire. Et donc en fait, c'était juste, voilà, on avait un Excel sous un certain format, on doit le transformer dans un autre Excel sous un autre format, en fait. Donc c'est très con, c'est très chiant, mais c'est du copier-coller, et c'est ok, on réadapte et tout. Et ensuite, on envoie au prestataire. Donc, et en fait, ils faisaient ça depuis longtemps, et ils sont arrivés. Donc c'est un pote à moi qui me les a introduits. Et voilà, la problématique, c'était, ok, comment est-ce qu'on peut arrêter de faire ça, parce que ça nous fait perdre un temps fou, et il n'y a aucune valeur ajoutée. Et donc en fait, ce que je leur ai mis en place, donc c'est une automatisation via Zapier qui pour le coup est quand même pas mal poussée, qui va récupérer en fait justement toutes les données sur PrestaShop et qui va les retravailler, les convertir dans un nouveau format. Et du coup, la commande du prestataire au format du prestataire dont eux ils ont besoin, et ben en fait ils la reçoivent directement par mail. Donc en gros, l'automatisation que j'ai mis en place, c'est aujourd'hui ils vont sur un site web PrestaShop, ils vont sur une commande, ils cliquent sur un bouton et boum, une minute plus tard, ils reçoivent par mail le format de cette commande au bon format en fait du prestataire. Et donc ils ont juste à faire ça pour toutes les commandes. Je crois même que j'ai fait un système qui permet de récupérer une liste de commandes en même temps. Et hop, et en fait là où avant ils passaient 1 à 2 heures par jour à retravailler les commandes à la main, là ils ont juste à faire un clic, à sélectionner en fait les commandes dans lesquelles ils veulent les formules robot format, et hop, ils les envoient au prestataire. Donc ça, limite maintenant, ils me disent, on n'a plus rien à faire, en fait, parce que c'est ça le plus gros de notre taf. Donc ils étaient très contents.
C'est du temps qu'ils peuvent passer à faire autre chose, peut-être qu'il y a plus de valeur pour leur projet, quoi.
Ah, complètement. Bah, là, ils peuvent passer du temps sur la communication, le marketing, des choses qui vont apporter encore plus de clients chez eux. Pas faire ce type de tâche où, en fait, tu pourrais potentiellement recruter un stagiaire à qui tu délègues. Mais bon, c'est pas très valorisant comme tâche à faire pour le stagiaire, et le stagiaire, si potentiellement, il a un coût. Alors que là, le coût Zapier, il est très minime par rapport au gain de temps qui est apporté.
Ok, peut-être qu'on pourra creuser après un petit peu justement Zapier et ton usage de Zapier aussi, qui est un usage assez avancé.
Ouais,
ça nous permettra d'aller voir vraiment toutes les possibilités. En fait, je voulais juste revenir sur un point qui m'intéressait quand tu parlais de tes clients. Parce que tu vois, la question que je me pose, c'est à quel point les PME, les gens un peu, enfin, qui sont éloigné du numérique, entre guillemets, enfin, c'est pas très sympa de dire ça, mais sont non, mais au ouais, courant qui en fait que pas. Tout ça existe, tu vois. Enfin, moi, genre, on le voit, on sait que les gens, ils font des tâches hyper répétitives.
Ouais, ouais, complètement. Bah, ceux qui sont... en fait, en général, quand tu travailles dans une boîte qui est un peu baignée dans la tech ou justement dans ce domaine, dans ce monde des startups, principalement sur Paris, c'est des outils que tu commences de plus en plus à connaître. Par contre, c'est vrai que quand t'es pas dans un secteur de métier qui est tech... Tu les connais pas du tout en fait et donc moi je sais que j'ai un travail de vulgarisation et de pédagogie aussi qui est de bah en fait ce que vous faites, sachez qu'aujourd'hui il y a des outils qui vous permettent de le faire plus facilement et qui sont pas compliqués à prendre en main, qui nécessitent pas de faire 3 mois de formation pour les maîtriser.
Justement, alors venons-en aux outils un peu, parlons-en un peu plus en détail. Explique-nous un petit peu voilà ce que t'apportes avec Zapier, avec Airtable, vraiment de manière très concrète pour que les gens comprennent, s'ils se reconnaissent un petit peu.
De manière très concrète, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? En fait, en général, déjà, il y a une problématique qu'on demande d'automatiser assez souvent dans les boîtes. Et c'est normal parce que c'est récurrent dans toutes les boîtes, bah c'est tout simplement la partie facturation et comptabilité. Et c'est comment tu gères ton admin. Et typiquement, j'ai une autre boîte cliente où elle, c'était deux filles qui ont monté un site de e-commerce aussi, voilà, qui était monté avec Webflow pour le coup, donc un autre outil no-code pour développer des sites web. Et en fait, donc elles ont tout un site de e-commerce sur Webflow, sauf que toutes les factures qu'elles devaient réaliser, qui étaient passées à la main sur Webflow, en fait, elles rédigeaient tout à la main. Et donc, elles ont commencé à discuter avec certains de leurs potes qui sont devs, donc qui leur ont fait des petits scripts pour faciliter justement la création de factures. Mais il y avait toujours un travail à la main qui était à faire, et si tu te plantais, bah, il fallait tout reprendre. Et elles n'avaient pas la flexibilité sur le process, en fait. Et donc, on a travaillé ensemble pour que, avec Zapier et Airtable, je puisse leur construire à la fois un dashboard qui leur permettait à elles de gérer en fait toutes leurs commandes. Donc l'état des commandes, l'état des factures, si c'est envoyé, et ainsi de suite. Et du coup, qui derrière faisait un parallèle avec la gestion des stocks. Donc ça, c'est un sujet qui est super important quand tu fais du e-commerce, c'est la gestion des stocks par rapport à ce qui a été vendu, combien est-ce que toi, tu vas devoir recommander demain. Donc il faut anticiper et ainsi de suite. Et en fait, il faut avoir une visibilité très claire sur où en est mon business aujourd'hui et qu'est-ce que je dois faire comme action pour qu'il puisse continuer à tourner. Et aujourd'hui, elle faisait tout sur Excel et c'était une tannée. Et donc, en fait, j'ai tout basculé directement sur Airtable. Donc, Airtable qui permet de représenter de manière beaucoup plus visuelle déjà un petit peu toutes les données qui sont réparties. Bah, Airtable, ça ressemble grosso modo comme un Excel. Donc c'est pareil avec des grilles, des colonnes. On retrouve des formules aussi pour faire des calculs. C'est juste que c'est bien plus agréable à utiliser au quotidien. Donc si Excel c'est ton outil de travail au quotidien, en général ça te fait du bien de passer à un outil comme sur Airtable. Et après, ils ont tout un système de dashboard où tu peux vraiment résumer de la donnée. Donc, Excel le fait aussi, mais Airtable, à la limite, il y a moins de fonctionnalités, mais les fonctionnalités qu'ils ont sont très bien faites. Et en général, tu n'as pas besoin de plus que ça, en fait.
Ouais, ce que je dirais aussi, c'est que Airtable, étant un outil de cette nouvelle génération no-code, aussi s'interface extrêmement bien avec Zapier, par exemple.
Complètement.
Et donc, tu vas pouvoir travailler sur les données de ton tableau de manière... très intéressante, quoi.
C'est ça. Et c'est là où moi, j'ai utilisé ensuite Zapier pour faire la connexion. Donc, c'est la deuxième chose que j'ai pu leur apporter pour faire la connexion avec leur site de e-commerce, donc Webflow. Donc là, l'idée, c'était de dire, OK, tout ce qui est commandé sur notre site de e-commerce, Webflow, on veut avoir toutes les commandes, en fait, sur Airtable. Et du coup, détailler aussi les commandes pour savoir qu'est-ce qui a été vendu en termes de produits pour faire un parallèle avec les stocks. Et du coup, ensuite, gérer tout leur admin avec les stocks. Et donc, j'ai mis en place toute une automatisation Zapier qui, non seulement va récupérer ce qui a été vendu à chaque fois qu'il y a eu une commande, va le mettre dans Airtable, mais surtout, et c'est là où c'était prioritaire pour elle, va créer automatiquement en fait la facture en fonction de la commande qui est passée sur Webflow. Et ce qui est beau aussi avec Airtable, c'est que là, pour le coup, Airtable comparé à Excel, on peut stocker des documents directement dans Airtable, ce que Excel ne fait pas. Et donc, du coup, je leur ai fait un dashboard sur Airtable où elles ont la liste de toutes leurs commandes directement avec la facture liée, le document qui a été généré automatiquement et qui a été généré, du coup, grâce à Zapier. Donc, on a une automatisation assez longue, assez complexe, mais qui est mise en place, mais qui leur permet à la fois de laisser, en fait, la création de facture de manière totalement automatique et d'avoir en permanence à jour l'état des commandes et donc de tous les produits vendus et donc de pouvoir faire facilement un parallèle avec les stocks.
Alors justement, pour que les gens se représentent un peu, s'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Zapier, justement cette chaîne d'automatisation, comment elle se passe un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a au début? Qu'est-ce qu'il y a...
En fait, Zapier, ils ont créé une interface qui te permet d'aligner différentes actions à réaliser, donc des actions automatisées, pour réaliser une tâche. Et en gros, ce que elle faisait à la main, qui était, OK, il y a une nouvelle commande sur notre site de e-commerce, on va sur notre site de e-commerce, on regarde la commande, on regarde ce qui a été passé. En fonction de ça, on va récupérer le client, on va essayer de créer un document à la main dans lequel on va remplir les informations. En plus de ça, c'est la liste des produits qui ont été vendus, on doit les mettre dans notre outil de gestion de stock, on doit faire un parallèle avec les stocks. Enfin, c'est à la main, c'est une tannée. Et non seulement c'est quelque chose, enfin ce sont des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, donc qui sont rébarbatives, mais en plus de ça, l'autre grosse problématique, c'est que comme c'est des choses que tu fais à la main, bah il y a le risque de l'erreur humaine, en fait, tout simplement. Et sur un truc où tu gères de la facture, de la comptabilité et sur de la gestion de stock, si jamais tu fais des duplicata ou ainsi de suite, tu peux faire ensuite de mauvaises commandes pour ta gestion des stocks. Donc l'avantage de l'automatisation, au-delà de gagner du temps, très simplement, c'est surtout ça élimine complètement le pourcentage d'erreurs humaines. Et donc sur des process comme la gestion de facturation, il y a un énorme avantage. Et donc ensuite, pour revenir du coup sur le système de fonctionnement de Zapier, en gros, tu vas avoir une simple interface où tu vas avoir une chaîne de blocs, et donc ça peut être jusqu'à...
En commençant par le déclencheur.
Exactement, voilà, donc t'as une première étape qui est un peu, en anglais on appelle ça le trigger, qui est donc le déclencheur du coup en français, et en gros c'est là où tu vas décider à partir de quel moment tu vas lancer toute une suite d'actions, en fait. Là, pour rester sur cet exemple, c'est le déclencheur, c'était quand quelqu'un passe une commande sur Webflow, sur le site de e-commerce, boum, on va lancer toute une liste d'actions qui vont créer une nouvelle facture, ensuite enregistrer la facture dans Airtable, ensuite enregistrer les données dans Airtable, et ainsi de suite.
Au niveau de Zapier, qu'est-ce que tu vois, toi, comme point fort vraiment à cet outil, et peut-être par rapport aux autres? Et déjà, on citait un peu les alternatives, parce que là on a parlé beaucoup de ça, effectivement.
Complètement.
Je pense le porte-étendard de l'automatisation.
Zapier, après, moi je suis complètement biaisé, parce que pour le coup j'ai passé la validation Zapier Expert en juillet dernier, donc en fait j'ai accès à un espace sur Zapier où je peux facilement gérer le compte de mes clients et proposer à mes clients en fait les comptes pro Zapier, c'est-à-dire avec toute la liste de fonctionnalités classiques, sans avoir à payer un team super cher, donc en restant dans des prix relativement bas. Du coup, forcément, j'ai décidé d'avoir l'expertise et d'avoir tout mon parti pris dessus. Après, j'ai toujours fait de la veille sur les autres outils qui existent. Il y a un bon concurrent Zapier qui commence à pas mal sortir aussi, qui s'appelle Integromate, qui permet de faire l'équivalent de ce que fait Zapier, mais qui est techniquement un peu plus poussé, qui permet de, par exemple, ça va pas parler aux personnes qui ne sont pas tech, mais qui permettent de faire des boucles, en fait, sur des suites d'actions, des suites de données, ce que Zapier peut faire, mais il faut creuser un peu. Donc t'as Integromate, t'as Parabola aussi, qui permet de faire pas mal ce que fait Zapier. En fait, je dirais que typiquement comme outil d'automatisation, Zapier, parmi tout ce qui existe, ça reste quand même le plus simple. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu te prends pas la tête, c'est très cadré, c'est, voilà, t'as un déclencheur, tu décides à partir de quand tu veux que ton automatisation se lance, et après tu fais des étapes, et t'en fais une par une, et t'as pas la possibilité d'avoir un arbre, entre guillemets, de conditions. Et donc, parfois, ça peut être bloquant, et en fait, moi, je trouve que c'est pas plus mal, parce que ça te force à mieux penser ton processus pour que, justement, tu fasses le minimum sur Zapier, en fait, et que tu t'essayes d'avoir une logique très simple, vraiment, vraiment essentielle pour le coup. Là où, effectivement, Integromite et Parabola, tu peux partir dans des automatisations plus complexes avec différents arbres d'actions en fonction de certains déclencheurs, certains types de données. Moi, là où je vois le comparé à ces outils, la plus grande force de Zapier, c'est déjà le côté pédagogique. C'est-à-dire que Zapier, ils ont changé leur mission cet été. Et là où avant, c'était aider tout le monde à être plus productif au quotidien, maintenant, c'est rendre l'automatisation universelle. Et donc, en fait, c'est investir beaucoup plus dans la pédagogie. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'un outil d'automatisation? Comment tu peux apprendre à le maîtriser pour pouvoir le faire évoluer. Donc en fait, même pour moi, enseigner de l'automatisation, c'est plus clairement Zapier sera une brique plus simple à prendre en main qu'Integromate ou Parabola, où ça reste des outils où il faut quand même être très, 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 très logique. Tu peux faire la même chose que sur Zapier, mais tu peux aller un petit peu plus loin. Et en fait, moi, là où je trouve aussi où Zapier a une force, c'est que ce que propose Parabola et Integromate, qui n'est pas directement intégré sur Zapier, bah pour le coup, quand tu es développeur, t'es quand même en capacité de créer les mêmes logiques et les mêmes processus directement dans Zapier. Et c'est pour moi ce qui fait vraiment la force de l'outil, c'est que à la fois ils se sont dit OK, on va proposer un outil pour les personnes qui sont pas du tout tech, qui savent pas coder, pour leur permettre d'automatiser les tâches. Donc on va faire des tutos, on va faire des vidéos, on va leur expliquer comment l'utiliser. On a un éditeur relativement simple. Et à côté, pour les personnes qui veulent aller plus loin, bah en fait, on propose des briques qui permettent de mettre des petits bouts de code, par exemple. Ça paraît rien, mais sur certaines automatisations, en fait, ça peut faire toute la différence. Et par exemple, je vois des réalisations d'automatisation sur Integromate ou Parabola, où il y a des personnes qui font des arbres de complexité, qui partent dans tous les sens parce qu'ils font 36 000 transformations de données, du coup, qui est fonctionnel et qui est très bien, mais qui rend un schéma un peu complexe. Et en fait, si le cas d'usage, c'est OK, on veut juste avoir un truc fonctionnel et on veut pas forcément, c'est pas quelque chose qui va forcément évoluer, moi qui est dev pour le coup, ça me paraît plus simple pour le coup de passer par du code plutôt que de réutiliser un autre outil qui va réinterpréter chaque fonction que toi en fait tu pourrais faire sur une ligne. Donc ça dépend beaucoup des cas d'usage et des problématiques, mais c'est vrai que là où c'est des outils qui vont te faire payer à l'usage, donc en fonction du nombre de tâches que tu auras utilisées, forcément plus tu vas avoir un process long, plus ça va être coûteux. Donc plus tu vas avoir une logique automatisée complexe sur Integromate, plus ça va te coûter cher derrière en tâche, surtout si c'est utilisé régulièrement. Là où l'avantage par rapport à Zapier, c'est que si tu mets une brique de code, après je dis ça, peut-être que Integromate a aussi une brique de code, donc au final c'est sûrement possible aussi chez eux, enfin, pour le coup d'ailleurs ça m'étonnerait qu'ils aient pas encore ça. Mais ce qui est relativement cool quand t'es en capacité de rajouter un petit script de code, c'est que du coup, là où sur Zapier ou Integromate, tu prendrais 10 actions pour traiter en fait du texte ou de la donnée, tu vois, pour le transformer, pour récupérer un texte dans un message ou des choses comme ça, bah en fait, ça te prend que une à deux tâches. Et donc, l'avantage de ça, c'est que même sur un outil Zapier, t'as une réduction de coût qui est incroyable. Et donc tu peux automatiser des process relativement complexes, mais tout en pour un prix, pour un coût sur le long terme qui est pas exorbitant non plus. Mais je pense que Parabola et Integromate, je pense, enfin ça me surprendrait beaucoup encore une fois qu'ils proposent pas la même chose que Zapier par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'après la différence, au final, c'est vraiment avec quel outil t'es le plus à l'aise. Moi, j'ai fait mon parti pris sur Zapier parce que c'est le premier, enfin ils se sont lancés en 2012 et c'est le plus utilisé aujourd'hui dans ce secteur-là, et ça a été prouvé que ça marche très bien en entreprise, c'est super robuste comme outil tout, donc pour moi c'est le plus professionnel en fait. Effectivement, les autres, ils ont d'autres fonctionnalités qui permettent d'aller plus loin dans des process. Effectivement, s'il y a quelqu'un qui commence à travailler sur Integromite et Parabola au lieu de Zapier, en vrai, il arrivera à faire, tant qu'il arrive à automatiser ses process, c'est ça l'objectif. Après, peu importe l'outil que tu utilises finalement.
Ouais, non, je suis assez d'accord. Moi, j'apporterai deux nuances par rapport à ce que tu dis. Enfin, il y a une première chose, effectivement, tu te places d'un peu du point de vue de développeur. Donc ça, c'est un skills en plus, effectivement, que tout le monde n'a pas, mais que tu peux, qui te double encore ton expérience de Zapier. Ouais. Quoi. Mais je trouve que Zapier, bon, moi, c'est un outil que j'aime beaucoup parce que je suis d'accord avec toi, c'est le plus facile à prendre en main, c'est le plus pédagogique.
Exactement.
Cette arborescence, enfin, qui n'est justement pas une arborescence, mais une suite d'actions.
Une ligne, ouais, voilà.
Qui est, alors, même si on peut, il y a une option pour faire des passes.
Il y a un système
de
passes, mais il est très limité.
Puis je pense que c'est pas vraiment forcément l'objet. Mais surtout, le point fort de Zapier aussi, je trouve, c'est le nombre d'intégrations, c'est-à-dire le nombre d'applications que tu peux connecter là-dedans. Je trouve qu'il est très impressionnant. Eux, ils annoncent 1500.
Complètement. Oui, effectivement.
C'est sûr. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, du coup, Integromat en a moins, je pense qu'ils disent 1000 à peu près. Ouais, Parabola, on a...
derrière.
Ouais, c'est normal, c'est les concurrents. Ouais,
exactement.
Ils ont il y a des pricing après qui sont différents. Après, on va pas forcément
rentrer dans les détails.
Rentrer là-dedans, mais ils ont des partis pris différents. Après, Parabola, finalement, moi, je le mettrais pas forcément dans cette catégorie-là, dans le sens où ils ont beaucoup moins d'intégration. Après, ils sont beaucoup plus récents aussi,
pour le coup, mais,
mais ils en ont très très peu. Par contre, ils sont, je pense, c'est plus facile de manipuler les données que dans Zapier ou dans Integromat.
Ça c'est sûr.
Et du coup, ça compense un petit peu ce que tu disais, où c'est vrai que quand tu maîtrises du code, faire du formatage de tableaux, de choses comme ça va très vite. Sans quoi, sinon, c'est pas vraiment évident.
Complètement.
Et Parabola, je pense qu'ils ont pris ce parti pris. Il y a des options pour manipuler les colonnes, manipuler les lignes, filtrer, faire des opérations. Et ça, c'est assez intéressant. Quoi.
C'est, en fait, de ce que j'ai cru, du peu que j'ai pu voir sur Parabola, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont presque développé un nouveau langage, tu vois. C'est-à-dire, on a refait une interface où chaque bloc qui permet de transformer une donnée sur Parabola. En vrai, par exemple, donc moi je suis développeur en JavaScript, et du coup, ce bloc-là, moi j'ai une fonction équivalente en JavaScript, tu vois. Et donc je comprends complètement la force de se dire, ok, je sais pas coder, par contre, j'ai un esprit logique. J'ai un esprit logique qui me permet de penser un process et de l'écrire, mais je connais pas la syntaxe.
Mais t'as tout à fait raison, parce que je pense que c'est vraiment ça l'idée. Et là, on rejoint un peu le concept global, no code, programmation visuelle.
Du code encore plus haut niveau, on est vraiment dans du visuel avec des fonctions super précises.
Ça, c'est assez intéressant. Mais bon, enfin voilà, donc c'est vraiment, je pense que comme tu dis, le plus important, c'est que les gens testent un peu les outils et puis qu'ils voient ceux qui leur conviennent. Moi, je pense qu'il y en a un pour chaque. Enfin, il y a un bon outil pour chaque situation. Après, il faut trouver la bonne. Après, les trucs qui sont intéressants aussi, c'est que comme ils ont des pricing différents, il y a des choses qui sont payantes sur Zapier qui sont gratuites sur Integromat.
Complètement, ouais.
Après, il y a effectivement dans les deux cas, de toute façon, le paiement à la tâche.
On a
un certain nombre de tâches, c'est normal. Hein. Plus on exécute d'opérations, plus haut aussi, ça leur coûte cher en capacité de serveur.
C'est clair.
Donc, c'est intéressant. J'avais une question par rapport à la certification Zapier. Justement, tu mentionnais que tu étais certifié. Je crois que vous êtes que deux en France.
La certification, au final, c'est plus une question business qu'une question compétence. C'est-à-dire que moi, je connais plein de personnes qui sont excellentes en Zapier, qui maîtrisent très très bien l'outil et qui pourraient facilement avoir la certification. Mais en fait, je dirais que le vrai point bloquant pour avoir la certification, c'est plus une démarche de partenariat en fait avec Zapier, c'est-à-dire qu'eux ils veulent que pour passer de la certification tu dois avoir un business ou bosser dans une boîte où Zapier en fait est un peu cœur de métier, si tu veux, parce qu'ils ont raison de faire ça. Zapier derrière ce que je fais moi, c'est j'apporte du client à Zapier, donc eux ils cherchent à avoir des experts reconnus qui vont mettre en avant, qui vont leur permettre d'apporter du business. Donc la certification, c'est clair que c'est bien d'un point de vue business, parce que t'as une crédibilité, t'as une légitimité. Et aujourd'hui, il y a une grosse partie des clients que j'ai qui viennent directement à partir du site Zapier, parce que je suis l'un des seuls référencés et mis en avant. Mais sinon, donc ça m'étonnerait pas que ça commence à apparaître de plus en plus.
C'est intéressant. Juste par curiosité, est-ce que tu utilises des automatisations au quotidien, en fait, toi, dans ta vie, soit pro, soit perso,
C'est une très bonne question. Alors, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel je me penche en ce moment. C'est-à-dire que là, depuis que j'ai lancé Essentiel, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire de démarches commerciales, parce que j'ai eu, par le bouche à oreille ou par la mise en avance via Zapier, toujours eu suffisamment de clients pour pouvoir avoir du travail en permanence. Et en fait, j'ai toujours pas pris le temps de moi-même me pencher sur mes propres process et mes propres automatisations. formation. Donc je suis un peu, c'est comme les cordes, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés en fait, si tu veux. Donc même moi là, j'ai fait une pause sur les missions clientes sur le mois de décembre et aussi début janvier pour pouvoir tacler en fait ces problématiques là. Et je vois très bien où je vais pouvoir automatiser énormément de choses d'un point de vue business sur ce que je fais au quotidien. Donc ça va me faire un bien fou. Ça va me permettre de lancer la deuxième version d'Essentiel d'ici un mois ou deux.
Et alors, pour élargir un peu du coup la discussion sur par rapport au no-code, qu'est-ce que c'est, toi, les outils que tu utilises et justement ceux qui s'intègrent bien avec Zapier et un peu, t'as cité Airtable, évidemment, qui est un...
Voilà, bon, le duo gagnant, clairement, donc c'est Zapier et Airtable. Ce que j'utilise beaucoup d'autres, pour la gestion des mails, l'automatisation d'envoi de mails, pour des campagnes marketing, des choses comme ça, Mailjet, site web, bah Webflow, du coup, parce que j'ai parfois des clients qui me demandent de refaire leur site web tout en automatisant en fait le contenu sur le site web. Donc là, c'est gros projet de fusion sur Airtable, Zapier et Webflow. Et il y a Zoom aussi, du coup, qui est un outil que j'utilise, bon, qui est pas du no-code, mais qui est vachement pratique pour de l'accompagnement.
Tu l'utilises dans quel
l'accompagnement.
L'accompagnement. Okay, avec tes clients, échanger avec eux.
Oui, voilà, bah c'est-à-dire que en fait, il y a des clients où ils ont plus des besoins, des petits besoins au quotidien et qui demandent une demi-heure de mon temps, tu vois, pour que je leur montre comment est-ce que tu mets ça en place, pour que je fasse à leur place et ainsi de suite. Et Zoom, c'est génial parce que pendant que je leur présente comment résoudre leur problématique et je leur démontre comment le faire, Zoom, donc c'est un outil de vidéoconférence, exactement la même chose que Skype. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que de un, c'est un outil de très bonne qualité, et de deux, en fait, ça enregistre automatiquement la vidéo sur ton ordinateur. Ce qui fait qu'en fait, derrière, j'ai du contenu pédagogique que je peux partager à mon client, c'est-à-dire que quand mon client il va payer pour de l'accompagnement, c'est pas juste, je vais donner deux, trois conseils, c'est qu'à chaque fois, le temps qu'on va passer ensemble, où moi je vais le guider, à lui donner des conseils, et à construire un petit peu ses automatisations Zapier et Airtable, pour lui montrer comment ça fonctionne, bah en fait, derrière, je lui renvoie aussi le support vidéo, donc il permet de repasser dessus en mode, ah ok, Thomas, il m'a expliqué, il a fait comme ça, je vais passer un peu de temps, j'ai essayé moi-même, et ainsi de suite. Et donc, tu as vraiment des cas d'usage où mon objectif, c'est de rendre ces personnes-là autonomes sur ces outils, parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'au final, tu arrives à maîtriser toi-même ces softwares ou ces outils pour construire du software, pour en fait être en capacité de répondre toi-même à tes propres problèmes.
Et sur Webflow, qu'est-ce que tu as utilisé comme automatisation? Enfin, qu'est-ce que tu as fait
Webflow, publication de contenu, par exemple, de blog post, où là, tu utilises Airtable comme un peu un dashboard admin, en fait, si tu veux, où tu vas créer tes textes et tu vas dire, ok, tel texte, j'ai envie de le publier tel jour, et ainsi de suite. Et un peu comme Buffer, en fait, ça, c'était une des premières automatisations que j'ai mis en place. Mais d'ailleurs, c'est l'automatisation sur laquelle j'ai pris conscience que Zapier plus Airtable a du sens, et c'est très fort. C'était pour faire un clone de Buffer. C'est-à-dire que c'était quand j'étais sur Empathy, donc ma boîte d'avant, et typiquement, je voulais passer beaucoup de temps sur la pédagogie et le contenu. Je voulais pas passer de temps sur l'administratif ou la com et ainsi de suite. Et je voulais automatiser mes process, mais j'avais pas pour autant envie de payer pour 10 000 outils SaaS. Et je me suis dit, tiens, je commence à toucher un peu à Zapier et Airtable, voyons ce qu'on peut faire avec. Et là, je me suis dit, ok, comment je peux automatiser ma communication? Et en fait, j'ai réussi à vraiment recréer un clone de Buffer, juste avec ces deux outils. Sauf que la grosse différence avec Buffer, c'est que les fonctionnalités payantes que proposait Buffer, bah moi j'étais capable de réussir à les faire directement avec Zapier Airtable. Fallait que je paye quand même pour Zapier, parce que sinon t'étais très limité.
Tu peux expliquer rapidement juste qu'est-ce que ça faisait concrètement?
Bah qu'est-ce que ça faisait? En gros,
parce que tout le monde ne connaît pas Buffer.
Donc effectivement, Buffer, c'est un outil qui permet de programmer à l'avance des posts sur les réseaux sociaux. Donc quand t'es community manager, par exemple, tu peux passer une journée en début de mois sur Buffer et tu vas préparer 20 à 30 posts sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, qui vont faire de la com automatique durant tout le mois. Donc c'est pas du contenu très spontané, mais quand t'as une liste d'articles qui a été écrit que tu veux programmer à l'avance, bah tu le fais une fois et après tu peux passer à autre chose et tu sais que la communication va se faire automatiquement sur les trois prochaines semaines. Et du coup, je me suis dit, ok, comment je peux faire ça avec ces outils-là? Et en fait, j'ai utilisé Airtable comme dashboard de poste. En fait, donc j'avais un tableau où j'écrivais tous mes posts, je détaillais aussi, voici le contenu du poste, voici le réseau sur lequel j'ai envie qu'il soit publié, que ce soit un Twitter, soit deux Facebook, LinkedIn, voici la date de publication que j'ai envie, voici le lien à partager en plus, ainsi de suite. Donc je détaille en fait tout le contenu du poste et les modalités de publication. Et après derrière, en fait, j'avais une automatisation Zapier qui venait vérifier à chaque fois qu'il y avait toutes les heures, à chaque fois qu'il y avait un nouveau poste à publier, et
il vérifiait toute ma table, et dès qu'il en trouvait un qui correspondait à l'heure actuelle, il le prenait et boum, il le publiait automatiquement sur le réseau en question, en fait. Et je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je ne me suis pas investi non plus que ça dans la com, mais techniquement, ça marchait. J'ai passé 2 jours à faire ça, mais j'étais très content d'avoir pu réussir à mettre ça en place et de se dire, ah ouais, c'est quand même des choses où tu te dis, aujourd'hui, il y a des business qui se montent sur du logiciel, qui font des levées de fonds et tout, et là, tu te dis, je commence à recréer 60-70% de la value proposition d'une boîte où t'as quand même 100 personnes qui ont levé plusieurs millions d'euros et ainsi de suite, juste avec 2 outils no-code dans ma chambre, et ça m'a pris 2 jours, tu vois. Et ouais, là tu prends du recul, tu fais, il faut se poser des questions, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc je pense qu'il y a un vrai tournant au niveau de l'évolution du SaaS et du logiciel en ce moment, et qui va évoluer de plus en plus avec l'évangélisation du no-code. Donc ça va être très très intéressant à regarder.
Justement, qu'est-ce que c'est ta vision un peu du no-code pour les 5 prochaines années, on va dire ?
Je pense qu'il y a des business où on va se rendre compte de plus en plus que t'as plus forcément besoin d'avoir 10 logiciels en parallèle que tu utilises, tu vois. Sauf que sur les 10 logiciels, enfin, tous tes logiciels que tu utilises à quoi ? 10, 20, 30%, tu vois. Pourtant, en général, tu paies pour chaque logiciel. Et bref, à chaque fois, c'est un outil différent. Donc, il faut se reformer. Quand tu as des recrutements, il faut reformer les nouvelles personnes que tu recrutes dessus. Et je pense qu'on va arriver de plus en plus dans une dynamique où je monte un business et en fait, je vais utiliser 3-4 outils qui vont être spécialisés, pas dans une verticale métier, mais dans une tâche technique. Un peu ce qu'on appelle dans le développement une stack, tu vois. Et je vois bien que demain, on va avoir Airtable. Ça va permettre de gérer la partie base de données d'un business, Zapier la partie algorithmique d'un business, Webflow la partie front d'un business, Retool la partie interface.
C'est drôle que tu dis ça, je t'interromps, pardon. Mais
vas-y,
parce
vas-y.
Que le CEO de Zapier, je crois il y a quelques semaines, quand on était à la NoCode Conf, il a tweeté, genre, qui a besoin d'AWS, donc Amazon Web Services, ce sur quoi repose un peu tout le code du monde.
80% des sites web.
Et il disait,
du monde.
Qui a besoin d'AWS quand vous pouvez avoir AWZ? Et quand il disait AWS, c'est A, Airtable, W, Webflow et Z, Zapier.
Ah, oh, c'est bien.
C'est
ça.
C'était vraiment ce concept de stack. Moi, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant autour de stack no-code.
Pour moi, on va partir là-dessus. En fait, là où aujourd'hui, tu développes des... Tu vois, quand t'es dev, tu dis, moi, la stack que j'utilise, c'est... Bon, là, je vais utiliser des termes qui sont pas connus, mais par exemple, pour le front, tu vas utiliser React. Pour la base de données, tu vas utiliser MongoDB. Pour le back-end, tu vas utiliser Express, qui sont des stacks classiques qu'on va développer des applications et des sites web. Et clairement, pour moi, demain, c'est... on va arriver sur du encore plus haut niveau. Et là, ce haut niveau, c'est on arrête de coder avec du texte mais avec des interfaces visuelles, et tu vas avoir la même chose. Le MongoDB, ça va passer à du Airtable, de l'Express ou des frameworks pour facilement gérer une application, une logique métier, ça va être du Zapier. Là où on utilisait React avant pour développer des interfaces, ça pourra très bien passer sur Webflow ou Retool, et du coup c'est génial parce que Webflow utilise React, donc en fait c'est encore un autre niveau de l'usage de React. Donc ouais, clairement, pour moi, ça m'étonne pas qu'on va partir de plus en plus là-dedans, et je trouve ça fascinant parce que ça, je pense qu'il va, pour le coup, par contre, c'est quand on va arriver là-dessus, ça m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment un shift d'un point de vue business, parce que là on dépasse quand même une certaine étape, c'est-à-dire que depuis 20 ans dans Internet, les langages évoluent. Mais la syntaxe des langages restait quand même la même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était des langages écrits qui évoluaient pour écrire du code, pour faire des applications. Là, il faut quand même se dire que si on passe ce gap-là, c'est même plus... t'as besoin de connaître du texte ou d'écrire du texte pour automatiser des choses. Vraiment juste lire, en fait, un truc qui dit, voilà, utilise tel bloc, et ainsi de suite.
T'auras plus besoin, justement, de coder, d'encoder du texte et écrire
exactement,
des codes sources.
Exactement.
Tu auras besoin de faire de la programmation visuelle.
Complètement. Et qui sera du coup accessible à tellement plus de personnes, et ça sera encore plus simple aux personnes de se former. Par contre, je pense que la force qu'ont les développeurs, et à mon avis, eux, je m'inquiète pas pour les développeurs, parce que même dans l'évolution du no-code, j'en suis l'exemple concret, il y aura toujours du taf.
Il y aura toujours besoin de développeurs pour développer les outils no-code.
Déjà, d'une, effectivement, il y aura toujours besoin de développeurs pour les outils no-code. Tu auras toujours besoin de développeurs pour faire du sur-mesure, parce que le no-code permet d'aller vite sur certains aspects, il y en a d'autres où il reste limité. Et c'est là où moi, j'ai une vraie valeur ajoutée, c'est que j'arrive à proposer le bon compromis entre les deux mondes, donc 80% en général no-code et 20% code, pour vraiment répondre aux problématiques et aux besoins métiers. Et aussi, ce qui reste super important, c'est qu'au final, ce qui va rester, et qui est quand même le cœur, j'estime, du métier de dev, c'est l'architecture logicielle, en fait. C'est comment tu penses un logiciel, comment tu penses à concevoir des algorithmes, des fonctions, comment tu anticipes l'usage futur, donc tu réduis la dette technique.
Tu vois, même ça, c'est l'architecture, elle va prendre, c'est pareil, si on dézoome, on va faire de l'architecture de service, c'est-à-dire comment tu combines, vraiment ce que tu fais, hein, comment tu combines Zapier, Airtable, etc. Tu vas faire cette architecture-là aussi, et elle sera une couche au-dessus que l'architecture technique.
Complètement, quoi. Complètement. Mais pour autant, tu vois, je sais ce que je fais aujourd'hui. J'y arrive parce que j'ai cette expérience de dev, tu vois. Si je n'avais pas appris à coder avant, je pense pas que je pourrais faire ce que je fais aujourd'hui parce que j'aurais pas du tout le même de pensée. Là, j'ai une logique métier qui me permet de penser une app à une logique applicative. Après, c'est juste qu'au lieu de la traduire avec du JavaScript et des frameworks code natifs, je la traduis avec Zapier, Airtable et ainsi de suite. Encore une fois, c'est un nouveau type de langage. Mais la logique de comment tu conçois un logiciel, parce que c'est ça au final, c'est concevoir des logiciels pour répondre à des besoins très spécifiques, elle reste la même. C'est plus les moyens qui sont différents.
Mais je pense que... Enfin, je vois ce que tu veux dire, puisque c'est le parcours que tu as eu. Et moi, j'ai l'impression que du coup, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que tu peux apprendre cette logique avec les outils no-code. Quoi.
Ah bah clairement, ça va être beaucoup plus simple d'apprendre cette logique-là avec
les
outils no-code.
Des gens qui derrière deviendraient dev, s'ils avaient déjà compris toute cette logique, cette architecture, comprendre ne serait-ce que l'architecture client-serveur, par exemple, sur laquelle repose Internet, et que du coup, dont tu as bien besoin pour comprendre comment Zapier fonctionne par rapport à Airtable, etc.
Complètement.
Tu peux l'appréhender plus facilement avec un niveau d'abstraction au-dessus, justement avec ces outils.
C'est clair.
Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment les parcours amènent à
comprendre
ça.
C'est sûr, mais c'est quand même beau de se dire que demain, c'est pas que le développeur sera plus roi, mais c'est que la dimension technique d'Internet sera tellement plus accessible et que les gens seront de plus en plus en moyen de répondre eux-mêmes à leurs propres problématiques plutôt que de dépendre d'un dev ou d'une agence et ainsi de suite. Et donc d'avoir des coûts de développement, d'avoir des coûts de gestion, puis des coûts de maintenance aussi, parce que c'est ça aussi qui est coûteux. C'est pas juste de développer une app ou un produit, c'est faut qu'il y ait quelqu'un qui continue à le faire vivre, à le faire nourrir, à le maintenir. Et quand tu te dis que demain, et tu pourras le construire toi-même, et tu pourras le faire évoluer en fonction de tes besoins, tu vas avancer tellement plus vite en fait dans tes projets. Bon, encore une fois, ça dépend de l'ambition que tu as dans tes projets. Il y a un moment où quand tu as quelque chose de très technique, il faudra passer par de la technique, c'est sûr. Mais c'est juste que tu as un compromis et tu as un parcours pour arriver là qui est beaucoup plus simple d'entrer. Là où avant, tu étais quand même, par exemple, je vais me former sur le code, je vais me casser la tête pendant quelques mois et je vais coder mon app et on verra si ça marche. Et en général, la plupart des choses que tu veux faire et qui sont les raisons pour lesquelles tu as envie d'apprendre à coder, aujourd'hui, tu peux très facilement les faire, typiquement avec Bubble pour la conception d'une app ou sur de l'outil interne. Voilà, Zapier, Airtable, ça fait très très bien le taf.
À mon avis, en se formant pendant quelques mois aux outils que tu as mentionnés ou à Bubble, tu fais des choses beaucoup plus avancées qu'après quelques mois de formation au code, quoi.
Ah, c'est sûr. Ah non, c'est sûr. T'apprends
c'est ça
plus
qui
vite.
Intéressant,
tu testes plus vite. Et même, c'est tout dépend encore une fois de la complexité de ton app, mais juste d'un point de vue agile et d'itération, c'est beaucoup. Quand tu veux tester quelque chose et que tu veux le faire évoluer, tu le fais évoluer beaucoup plus vite sur un outil no code que sur un outil avec code, en fait. Parce que t'as beaucoup moins de choses à gérer, serveur et ainsi de suite, enfin admin system. Alors que le no-code sera un peu plus coûteux dans le sens où ça reste des logiciels SaaS pour lesquels tu dois payer en fonction de l'usage. Alors que là, l'avantage, quand tu sais coder, t'as pas besoin de payer pour quoi que ce soit, t'as juste besoin d'un éditeur de texte et de tes mains. Mais par contre, c'est clair que le résultat est au rendez-vous beaucoup plus rapidement et la capacité de faire évoluer ce résultat est aussi beaucoup plus rapide. Et ouais, ça c'est vraiment trop trop bien.
Ouais, mais écoute, je suis tout à fait d'accord. J'ai une dernière question qu'on pose à tout. Ah non, j'ai deux questions. Voilà, comme ça, on va faire ça bien quand même. Une première question, c'est est-ce que tu as des conseils pour des gens qui se lancent un peu dans tout ça ?
Qui se lancent dans du no-code, qui veulent tester
dans l'automatisation, je sais pas.
Dans l'automatisation, en fait, c'est très basique, mais juste essayer de le faire par vous-même. Genre, c'est impressionnant le nombre de personnes qui se rendent pas compte, qui sont à peu de choses de pouvoir résoudre le problème par eux-mêmes, en fait. Et sur des problématiques où tu veux automatiser quelque chose maintenant, typiquement, c'est ce que annoncé Zapier, ils vont aller de plus en plus dans l'éducation, donc de rendre leur technologie de plus en plus accessible. Donc, pour moi, c'est quand même, l'idée, c'est quand même que tu restes autonome sur ces usages-là. Et c'est vrai que... Restez curieux, allez toujours passer minimum une demi-heure soi-même sur Google, sur des forums pour trouver la solution par toi-même, parce que tu gagneras beaucoup plus vite en compétences. Et c'est la satisfaction de se dire que tu avais un problème, tu l'as résolu par toi-même, par ta persévérance, par ta curiosité, c'est quand même très très agréable. Donc...
Et puis il faut essayer, comme tu disais au début.
Ouais.
Je pense que ça, vraiment le bon conseil, c'est vraiment d'essayer, quitte à se planter. C'est pas grave, de toute façon, on va pas casser Internet, surtout avec ces outils-là, quoi.
Puis, pour moi, et puis tu te plantes pas à partir du moment où t'apprends quelque chose, en fait. Et donc si c'est compliqué ou que ça prend du temps, ça viendra. Encore une fois, ça dépend de la complexité de la problématique. Mais ouais, je pense que être son propre client, c'est-à-dire résoudre ses propres besoins. Donc si tu veux apprendre à faire de l'automatisation, essaye de te dire, ok, j'ai des cas concrets, ne serait-ce que pour moi, dans ma boîte, où ça pourrait apporter de la valeur, ou d'un point de vue business, et ainsi de suite. Essaye de répondre toi-même à tes propres problématiques et creuse et va chercher par toi-même. L'avantage, c'est que si tu prends une problématique qui est cœur dans ce que tu fais au quotidien, la motivation elle va exploser, parce que tu sais très bien que si tu réussis cette démarche d'automatiser ou de répondre à ton problème via des outils no-code, ça va te faire gagner un temps fou derrière. Donc ouais, choisis une problématique que toi tu rencontres au quotidien et c'est con, mais utilise Google à essayer de chercher. Il y a beaucoup de choses sur les forums de plus en plus. Et après, y a de plus en plus d'acteurs comme nous, hein, que ce soit l'essentiel ou le contournement, qui sommes là également pour les épauler. Donc voilà. Et puis, ouais, en termes d'outils purs, je prêche quand même ma paroisse, mais Zapier, c'est relativement simple d'accès. Même si, je trouve ça un peu dommage que la version gratuite, ça a quand même relativement limité, où tu puisses faire que l'équivalent de FTTT, une action et ensuite une action. Une déclencheur et une action. Mais ils ont revu leur pricing. Je crois que maintenant, c'est minimum 10 euros par mois et pas 20 comme avant. Donc, du coup, c'est plus accessible. Et sinon, si tu utilises Excel, regarde Airtable et puis il va changer.
Très bon conseil aussi. Dernière question qu'on pose à tous les gens qui passent par le podcast.
Ouais.
Est-ce que tu as un side project ? Si tu n'en as pas, qu'est-ce que ça serait ? Si tu devais construire quelque chose qui pourrait être, je sais pas, une muse, c'est un peu le terme à la mode, ou avec les outils no-code, je veux dire. Qu'est-ce que tu créerais
Quelque chose que j'aimerais beaucoup faire plus tard, et c'est comment est-ce que tu peux les utiliser pour, par exemple, mieux contrôler un peu ton impact environnemental ou ta vie au quotidien, en fait. Moi, j'adorerais avoir un système où, par exemple, j'ai une table dans Airtable où je peux indiquer qu'est-ce que j'ai dans mon frigo. Et en fonction de ça, je vais avoir un bouton qui va me générer une recette, en fait, ou qui va m'indiquer la bonne recette en fonction de ce qui me reste dans mon frigo. C'est des trucs tout cons, en fait, de la vie quotidienne, mais je sais que techniquement, je pourrais mettre ça en place juste en utilisant du Zapier et Airtable. Et je pense que, et plus tard, c'est vraiment quelque chose que sur lequel j'aurais envie de m'investir plus, c'est comment est-ce que ces outils-là, t'arrives à les sortir du domaine pro et à les amener dans le domaine perso, mais pas en mode gadget, vraiment en te simplifiant, en fait, la vie au quotidien. Et là, je pense qu'il y a des vrais trucs à craquer, et la beauté de la chose, c'est que du coup, on peut tester, en fait, tellement plus vite avec les outils no-code. Donc déjà, rien que cette application de génération de recettes en fonction de ce qui reste dans ton frigo, si j'arrive à faire un truc qui tient la route, je serais très content. Ouais.
Ok, cool. Je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça pourrait servir, donc si tu le fais,
je ferai un blog post sur le sujet.
Avec plaisir. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et, bah,
merci
oui,
à toi, Alexis.
Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre et te
me retrouver. Bon, je suis pas du tout actif sur Twitter ni sur LinkedIn. Bon, en général, j'aime bien passer sous les radars. Bah, essentiel.io, donc mon site web. Après, vraiment me suivre, plus, je dirais, m'ajouter sur LinkedIn ou suivre la page essentiel.io sur LinkedIn. Et sinon, oui, bah, mon mail, il est sur mon LinkedIn. Donc. Les gens pourront facilement me retrouver.
Ok, super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup.
Merci à toi, Alexis. Salut.